La grâce et la paix vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce d'une semaine qui commence, une semaine donnée et prête à être traversée. C'est aussi la grâce d'une parole qui s'annonce, une parole donnée et une parole prête à être entendue. La paix nous est aussi donnée, c'est celle d'une histoire qui ne vient plus empêcher notre présent de se dérouler. C'est la paix d'une question qui n'a pas peur de ne pas avoir de réponse. La paix du cœur et de l'âme, comme un trésor à partager, vous sont données aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons pour chanter. Seigneur, que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, tu es la force dans l'épreuve, tu es la lutte contre la mort, tu es la source de la miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël. Tu es là dans la lutte contre toute domination. Et tu es aussi présent dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écrasait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le Père serre son enfant contre lui, tu supprimes toute distance. Que ma vie tout entière chante ta louange, car à cause de toi, je peux mesurer l'éphémère de ma vie et la fragilité de mes engagements. Mais par ton amour, je peux aussi l'assumer. Que ma vie tout entière chante ta louange. Nous chantons le psaume indiqué.
Je sais en tes mains.
Je vous invite à vous asseoir pour vous mettre à l'écoute de l'attente de Dieu, cette attente qui prend la forme d'une bénédiction. Heureux celui qui a un cœur de pauvre. L'amour de Dieu est son royaume. Heureux celui qui, par amour, est dans la peine. Le sang de Dieu coule en ses veines. Heureux celui qui jamais ne montre le poing. C'est l'autorité tranquille de Dieu qui fait sa force. Heureux celui qui a souffert pour la justice. Le cœur de Dieu lui est offert. Heureux celui qui ne cesse de pardonner. La joie de Dieu l'a traversé. Heureux celui qui voit tout d'un regard d'enfant. La lumière de Dieu l'attend. Heureux celui qui, pour la paix, donne sa vie. Le Fils de Dieu est son ami. Heureux celui qui, pour moi, risquerait sa tête. Le champ de Dieu lui fera fête. Amen. Humblement, reconnaissons nos manquements devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et nous nous sommes crus riches. Nous n'avons pas tendu vers toi notre cœur vide et nos mains suppliantes. Seigneur, pardonne. Seigneur, tu as dit « Heureux ceux qui pleurent ». Mais rarement nous avons versé les larmes de la repentance, tandis que souvent nous avons pleuré de regret et de tristesse en songeant à nos bonheurs perdus. Seigneur, pardonne. Seigneur, tu as dit « Heureux ceux qui sont doux. Mais nous nous emportons contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs. Souvent nous sommes rancuniers et vindicatifs. Seigneur, pardonne. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais nous nous sommes rassasiés de notre propre justice. Seigneur, pardonne. Tu as dit aussi, heureux les miséricordieux. Mais alors que tu nous avais remis notre dette, nous n'avons pas su, serviteurs impitoyables que nous sommes, pardonner à nos proches. Seigneur, pardonne. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. mais nos cœurs sont partagés, traversés de désirs troubles et de pensées coupables. Seigneur, pardonne. Tu as dit aussi « heureux les artisans de paix ». Mais nous n'avons pas apporté la paix parce qu'elle n'était pas dans notre propre cœur. Seigneur, pardonne. Tu as dit « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et nous avons recherché le confort et la sécurité en pactisant avec l'injustice. Seigneur, pardonne. Recevons en toute simplicité le pardon que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Par Jésus son Fils et par son Esprit, il est en toi. Toi, vis en lui. Le jour de demain appartient à Dieu. Alors ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le-lui. Le moment présent n'est qu'une frêle passerelle, et si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, alors la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Confessons notre foi. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. C'est lui qui nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et plein de justice. Sa royauté demeure secrète, mais sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans l'assemblée des fidèles, et il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que son amour sera reconnu, que sa royauté deviendra notre royaume. Et nous croyons que c'est cette espérance qui nous unit à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Oui, c'est là notre espérance, notre assurance et notre joie. Je vous invite à vous asseoir. Pour nous mettre à l'écoute de l'Évangile, selon Luc, au chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit : Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve me casse les pieds, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Alors Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Il les ferait attendre? Je vous le déclare. Il leur fera justice bien vite. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous lisons le deuxième texte sur lequel nous allons méditer. Il est extrait du deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les 7 premiers versets. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien du tout à la maison, sauf peut-être un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. » Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et il lui passait les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Alors, l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu, et celui-ci lui dit, « Va, vends l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Nous chantons le cantique 308, les strophes 1, 2, 3, non ? Cantique indiqué. Prions avant d'écouter cette parole. Donne-nous, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur libéré des soucis qui parasitent la vie. Donne-nous un cœur de sage qui met chaque chose à sa place, la place du provisoire et la place de l'essentiel. Que ton esprit vienne éclairer nos cœurs et qu'ils nous rendent capables de vivre des choix qui feront de nous des hommes et des femmes libres. Voilà, encore un miracle. Un miracle de plus et un miracle qui prête à sourire. Hop, on passe comme ça de la pénurie à une situation d'abondance, comme par magie. Et vous remarquerez qu'il n'y a même pas une parole pour rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que par là, il n'y a même pas cette parole de Dieu, ce label divin, qui attesterait que ce miracle a pour commanditaire Dieu lui-même. Le récit ne nous donne pas non plus la preuve que ce renversement de situation soit le fait du Dieu d'Israël, lui qui, selon ses antiques manières, reste soucieux de l'histoire de chacun. Alors ici, dans ce texte, tout va très très vite et on n'y voit que du feu, un petit peu comme dans les numéros de foire, mille fois rodés. L'huile miraculeuse s'arrête de s'écouler au bon moment. Et vous remarquez qu'il n'y a même pas de gâchis. Et ce n'est rien encore, parce que si nous lisons les récits des miracles d'Élisée, si on suit le prophète dans ses récits merveilleux, on est encore plus effaré. Dans ces récits merveilleux qui lui donnent la vedette, on a même le sentiment de quelque chose d'un peu trop facile. Il faut dire qu'il fallait bien ça pour asseoir sa légitimité. Il est le successeur d'Élie, ce grand prophète, et les auteurs de son histoire, de sa geste, lui ont fait faire aussi bien et voire mieux que son prédécesseur. Il lui a fallu d'ailleurs une sorte de double adoubement pour se distinguer dans la confrérie des prophètes, car il y en avait beaucoup à l'époque, ces prophètes qui luttaient contre l'imprégnation du culte de Baal en Israël. Lui, Élisée, il a reçu une double dose d'esprit de Dieu et il a reçu deux fois le manteau d'Élie, c'est-à-dire son autorité. Élisée, c'est quand même un ancien laboureur qui est devenu faiseur de miracles et qui plaît au petit peuple par son sens du service. Mais il sait aussi se frotter aux affaires politico-militaires d'envergure. Il est écouté des princes. Il n'est même pas interdit de laisser partir son imagination et faire un grand écart dans le temps pour voir dans notre prophète, très pipole, un homme qui sait travailler son image. Il sait serrer une main par ici, jeter une poignée de farine par là pour faire avaler un bouillon empoisonné. Il sait être proche des gens de peu, tout en sachant s'arranger avec les grands. Ce conseiller du prince participe même à des coups d'État, comme celui de Jéhu au chapitre 9 du deuxième livre des rois. Eh bien, malgré cela, ce n'est pas ce faiseur de rois qui a la vedette de notre récit. L'histoire avance très vite, certes, avec une grande économie de moyens, mais elle met en avant une femme de peu. Une femme de peu et de peu de mots. Dans son anonymat et dans son dénuement, c'est elle qui prend l'avantage sur notre faiseur de miracles. Une femme de peu donc, car qu'est-ce qui lui reste pour assurer le lendemain ? En mourant, son prophète de Marie, lui qui appelait à la liberté, lui qui ne dépendait que de Dieu, eh bien voilà qu'il lie le sort de sa famille au bon vouloir d'un créancier. Rien n'est plus assuré pour cette femme. Son avenir, ses deux fils vont être réduits en esclavage alors qu'elle devait compter sur eux pour subvenir à ses besoins. Son recours à la justice, le créancier est dans ses droits. Alors peut-être l'appui du voisinage. C'est écrit dans les textes, dans le Deutéronome. Les restes des moissons, des vendanges et des cueillettes d'olives doivent revenir aux déshérités. Mais on voit bien que ça n'a pas suffi puisqu'elle a dû acheter à crédit. Alors que lui reste-t-il pour faire avancer son histoire à elle ? sa bouche pour crier, et crier d'une voix qui klaxonne comme celle du peuple d'Israël quand il ployait sous le joug de l'esclavage en Égypte. Voilà de quoi mettre Dieu en alerte. Il ne peut pas ne pas entendre. Les dispositions du Code de l'Alliance ne prévoient-elles pas la protection des veuves, des orphelins et des émigrés exposés à la saisie des usuriers? Alors résumons. La maison est vide de biens, mais remplie de malheurs. Elle est pleine d'un mal qui augmente au rythme des intérêts de la dette. Toutefois, le malheur a oublié cette fiole d'huile. Un peu d'huile sans aucun doute de très grand prix, mais en quantité si négligeable qu'elle l'évoque in extremis quand elle fait l'inventaire de tout ce qui lui reste. C'est donc un avoir négatif, un avoir inutilisable, car c'est la mort du mari qui a mis de côté cette huile parfumée, parce qu'il est inconvenant d'utiliser cette huile lorsque l'on est en deuil, d'après la loi. Mais à partir de là, tout peut être renversé. Le mécanisme des enchaînements fatals peut s'enclencher, mais cette fois-ci dans un autre sens. Pourvu seulement qu'il y ait un petit peu de confiance. La confiance n'est pas d'usage à l'heure des pleurs. La confiance, c'est ce peu d'huile précieuse que l'attention laisse de côté, tout occupée qu'elle est dans ces circonstances à faire l'inventaire du mal et de la perte. Mais pourvu qu'il y ait un tout petit peu de foi, car le voilà le signe du divin, cette manière de faire grand avec le trop peu. L'avenir découle de ce qui est trop dérisoire pour être vendu et échangé. L'avenir découle de ce à quoi on ne pense pas immédiatement. Mais encore faut-il qu'il y ait une confiance à la hauteur de la situation. Une confiance qui ne cherche pas le sensationnel, qui n'est pas rassurée par les seules paroles recettes, par les remèdes miracles et autres poudres de perlimpinpin. Une confiance simple mais terrible. Une confiance qui reconnaît la fine trace de Dieu dans sa sollicitude. Un Dieu qu'elle peut prendre au mot. Une confiance qui s'active, qui se met en marche et qui sort pour demander ce que les voisins n'utilisent plus. Pour la veuve, l'entourage n'avait que du manque, et peut-être même un silence gêné, ou encore un silence de compassion, en tout cas, une incapacité à l'aider matériellement. Eh bien, cette incapacité-là, ce vide-là, le vide des ustensiles, de ces objets disponibles, va devenir capacité au double sens de contenance et de possibilité. Comment ne pas penser alors à ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la grâce qui donne toute sa mesure dans la faiblesse. Faiblesse non comme vertu misérabiliste, mais comme aptitude à recevoir cette pleine mesure débordante. La quantité d'huile, ou on peut dire la grâce donnée, n'a pas d'autre limite que celle de l'aptitude humaine à la recevoir. La grâce de Dieu laisse à la confiance de cette femme le pouvoir de lui donner sa limite. Ne te contente pas d'un petit nombre, l'avait averti le prophète. Les évangiles disent autrement, prenez garde à ce que vous entendez, car c'est la mesure à laquelle vous mesurez, c'est-à-dire ce que vous entendez, qu'on mesurera pour vous, et même on y ajoutera encore. Alors quelle confiance Dieu accorde-t-il à notre confiance en lui? Et quelle responsabilité nous échoit alors dans l'intervention de Dieu? Une once de scepticisme, un rapide calcul de probabilité, une évaluation de la faisabilité de ses promesses sont autant de restrictions qui inhibent la générosité de Dieu. On comprend pourquoi le miracle est ici soustrait aux yeux des curieux, à l'abri des évaluations. La prodigalité de Dieu est infinie parce qu'elle est indéfinie, tant elle dépend de la générosité de notre confiance et tant elle est soumise à notre aptitude à lui prêter des aptitudes pour nous. Ici, l'abondance de l'huile tient à l'espérance de cette femme qui ne peut plus compter que sur Dieu. Et vous voyez donc que la vedette lui est aussi volée à cette femme parce que celui qui se tient dans le secret de la confiance, lui qui n'opère pas aux heures de grandes audiences, mais qui aime être là où les mots se taisent et s'écartent devant son passage, c'est lui qui est apte à transférer des transformations intimes et décisives en chacun de nous. Car il se tient dans le secret, dans le fort intérieur, pour donner et laisser couler l'abondance de sa présence. On peut dire qu'il se tient dans le saint des saints de chacun. Et avec ce qui est notre peu à vivre, notre peu à espérer, notre peu à donner, et aussi notre peu à risquer, il opère le miracle par excellence. Et ce miracle, le voici. Nous devenons aptes à le recevoir, et de ce fait, nous devenons ouverts à un avenir incalculable. Laissez couler librement la générosité de ses dons, l'abondance de sa présence en nous, et on ne peut plus limiter notre avenir à nos seuls pronostics. On ne peut plus cantonner notre existence aux seules limites de nos dispositions naturelles. Voyez ici, avec cette huile qui s'écoule généreusement, la dette sera payée, le passé soldé et l'avenir de toute une famille indéfiniment assuré. Comme s'il n'y avait pour retourner l'abondance du mal que ce qui est en surabondance, c'est-à-dire l'excès de la grâce d'abord, et par elle, notre capacité inestimable à la recevoir. Avec la même surabondance, le sens de cette histoire peut nous faire vivre longtemps si nous laissons couler depuis notre intimité avec Dieu le flux de sa grâce vers toutes nos situations d'impossibilité, pourvu qu'il ne nous reste plus qu'un petit peu de confiance en lui. Amen. Nous nous levons pour chanter les strophes 1, 2, 3 et 5 du cantique 308.
Prenons place. Merci beaucoup, Regina. Regina, que les parents d'enfants de l'Éveil à la foi connaissent bien, puisque tu animes l'Éveil à la foi, ainsi que le catéchisme pour ceux qui sont en deuxième année. Donc, c'était bien que tu sois de ce côté-ci de la rue de l'Oratoire ce matin. Merci beaucoup de nous avoir donné cette prédication. Quelques informations que nous allons développer pour dire de quoi notre semaine sera faite. Il faudra beaucoup de récipients d'ailleurs pour remplir, enfin pour contenir tout ce que nous allons vous offrir, Mais je vais tout d'abord laisser la parole à John, parce que nous avons le plaisir aujourd'hui, comme chaque premier dimanche de juin, de pouvoir accueillir les amis d'Amparibé, les amis des amis d'Amparibé aussi. Il y aura d'ailleurs à l'issue de ce repas un repas malgache auquel nous sommes conviés, Salmono, juste en face. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir quelques nouvelles et je te passe la parole.
Merci James. Effectivement, depuis 6-7 ans maintenant, il y a un dialogue nord-sud entre la paroisse d'Amparibé à Tananarive, Madagascar, et la paroisse de l'Oratoire du Louvre. Ce dialogue s'est raffermi progressivement au fil des ans. Et aujourd'hui, comme disait James, tous les premiers dimanches du mois de juin, c'est toujours un plaisir pour nous, les membres de cette paroisse qui vivent en France. Hein, il y en a quelques-uns ici représentés aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour nous de participer à ce culte. Nous ne sommes que la face visible de la paroisse d'Amparibé, donc qui est à Tana. Ce dialogue, comme je l'ai dit, sera fermé régulièrement. C'est un dialogue entre homologues. Les pasteurs discutent avec les pasteurs, les éclaireurs avec les éclaireurs, l'école biblique avec l'école biblique, ainsi de suite. Et donc, ça marche plutôt bien, puisque récemment, il y a même eu un échange entre les deux journaux de paroisse. Il y a une inclusion dans chaque journal respectif, une page concernant la paroisse homologue. Donc, nous sommes ravis de cette coopération. Il y a tout à l'heure un repas qui va être partagé, un repas malgache. Au cours de ce repas, le pasteur Anne-Laure Danet, qui est avec nous aussi ce jour, et qui est responsable des actions du DEFAP, le service de mission protestante à Madagascar, au cours de ce repas, donc, non seulement on partagera de la viande et du riz malgache, mais aussi les nouvelles du DEFAP et des actions du DEFAP à Madagascar. Et à l'issue de notre père, je crois, on doit vous livrer aussi un cantique qui est dans le droit fil de la prédication que nous avons écoutée, et un répond à la cantique qu'on vient de chanter, un cantique qui parle de la grâce de Dieu. Dieu est amour, sa grâce est abondante, elle nous accompagne jour et nuit, que ce soit ici, à l'étranger ou dans notre pays.
Merci beaucoup John. Et effectivement, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous aurons l'occasion d'entendre Anne-Laure Danet pour nous présenter cela à l'issue du repas. Donc n'hésitez pas à franchir la rue de l'Oratoire. J'ai aperçu aussi des éclaireuses, donc je présume qu'il y a bien une vente de gâteaux à l'issue de ce culte. Je ne sais pas si l'une ou l'autre serait là pour en dire un mot. Bon, en tous les cas, sachez qu'il s'agit de pouvoir financer une partie de l'achat du matériel nécessaire pour le camp. Alors, après une journée très malgache, nous aurons une semaine très américaine qui nous conduira vers le 6 juin, 70e anniversaire du débarquement, ce qui fait que ça vous a donné l'occasion d'avoir un pasteur ici à l'oratoire issu de ce bel événement. Mais indépendamment de cela, demain soir, à 20h, salle Mono, le professeur Raphaël Picon vous présentera le théologien James Cone. James Cone est un contemporain de Martin Luther King et de Malcolm X. Il a d'ailleurs fait la passerelle entre ces deux courants qui militaient pour les droits civiques aux États-Unis. Il a développé ce qu'on a appelé la théologie de la libération noire. Et donc, vous entendrez Raphaël Picon vous présenter James Cone. Mercredi, à 19h, ici même, c'est le théologien John Shelby Spong, un très grand représentant de la théologie libérale aux États-Unis, connu à travers le monde, très peu connu en France. Connu en France grâce à Gilles Castelnau, essentiellement, qui a traduit des textes. Et puis, il vient d'avoir un livre, Jésus pour le 21e siècle, juste traduit. Donc, il fera une présentation de son ouvrage, une dédicace ici même. Il parlera en anglais, mais la conférence a été traduite par Abigail Bassac. Et elle sera en équipe avec Gilles Castelnau pour traduire les questions et les réponses. Donc vous pourrez totalement profiter de la venue de John Shelby Spong. Le lendemain, le jeudi, il est au service protestant de mission d'EFAP, boulevard Arago, si vous ne pouvez pas être présent le mercredi soir. Une autre information, c'est que mardi à 14h30 a lieu l'étude biblique sur Ézéchiel. Alors là, ça nous ramène dans le Proche-Orient ancien. Ce sera la fin du livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 40, la vision du temple et le partage de la terre. Et puis dimanche prochain, notre culte à 10h30, ce sera le culte de Pentecôte, l'occasion d'accueillir plus spécifiquement les catéchumènes de dernière année, un baptême, des confirmations. Donc soyons présents pour pouvoir les entourer et leur dire à quel point nous les reconnaissons effectivement comme adultes dans l'Église. Et donc votre présence est importante pour qu'ils puissent l'entendre aussi de votre part, que ce ne soit pas simplement un acte clérical. C'est maintenant le moment de l'offrande. Et bien voilà un acte tout à fait démocratique. Il n'y a pas que les pasteurs qui participent à la vie de l'Église. Donc faisons bon accueil des quêteurs.
C'est le moment d'élargir notre prière. Seigneur, souviens-toi de ceux qui divaguent dans le malheur, de ceux que la souffrance rend injustes, de ceux que l'angoisse du lendemain rend durs ou obsessionnels, de ceux qui accusent le destin, Dieu les autres, pour ne pas avoir à porter un fardeau trop pesant. Souviens-toi de ceux qui meurent abandonnés de tous, de ceux qui espèrent contre toute espérance, de ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Seigneur, souviens-toi de ceux qui ignorent la pitié, de ceux qui se moquent de la faiblesse, de ceux qui ricanent devant la sainteté ou la beauté de la vie, de ceux qui restent prisonniers de leur désespoir. Seigneur, souviens-toi des peuples opprimés, des peuples meurtris par la violence, des peuples intérieurement déchirés et des peuples qui vivent dans la peur. Seigneur, souviens-toi de ton Église, qu'elle s'arrache à la fascination de la force, qu'elle se rende libre pour le service des hommes, qu'elle prépare la venue d'un royaume sans frontières et qu'elle bâtisse une maison nouvelle où il fait bon vivre en ta présence. Et pour résumer toutes ces demandes, nous nous levons pour dire d'une même voix la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa générosité, vous accompagne et surtout qu'il dilate en vous la possibilité de recevoir sa grâce pour faire de vous cette semaine et les temps à venir des hommes et des femmes audacieux et joyeux. Amen.